Chapitre 8. J'arrive à Paris. Concert de la rue de Cléry. Bal chez Madame Regnault de Saint-Jean-d'Angély. Madame Bonaparte. Vienne. Gérard. Madame Récamier. Madame Tallien. Dulcis. Mes soirées. Je pars pour Londres. À mon arrivée à Paris dans notre maison de la rue du Groschenet, Monsieur Lebrun, mon frère, ma belle-sœur et sa fille vinrent me recevoir à ma descente de voiture, pleurant tous de joie de me revoir, et j'étais moi-même bien attendrie. Je trouvai l'escalier rempli de fleurs et mon appartement parfaitement arrangé. La tenture et les rideaux de ma chambre à coucher étaient en casimir vert, les rideaux bordés d'une broderie en soie flotte couleur d'or. Monsieur Lebrun avait fait surmonter le lit d'une couronne d'étoiles d'or. Tous les meubles étaient commodes et de bon goût. Enfin, je me trouvais fort bien installé. Quoique Monsieur Lebrun m'ait certes fait payer tout cela bien cher, je n'en fus pas moins sensible aux soins qu'il avait pris pour me rendre mon habitation agréable. La maison de la rue du Groschenet était séparée par un jardin d'une maison qui donnait sur la rue de Cléry et qui appartenait aussi à Monsieur Lebrun. Il y avait dans cette dernière une salle immense. Dans la Révolution, toutes les églises étant fermées, M. Lebrun prêta cette salle pour y dire la messe, où se donnaient de très beaux concerts. On m'y conduisit le soir même de mon arrivée, et dès que je fus entré, tout le monde se tourna vers moi, les spectateurs en battant des mains et les musiciens en frappant de leur archet sur leur violon. Je fus tellement sensible à un accueil si flatteur que je fondis en larmes. Je me souviens que Madame Tallien était à ce concert, éclatante de beauté. La première visite que je reçus le lendemain à mon lever fut celle de Greuze, que je ne trouvais pas changée. On eût dit qu'il ne s'était point décoiffé. Ses boucles de cheveux flottaient encore de chaque côté de sa tête, comme à mon départ. Je fus touchée de son empressement et bien contente de le revoir. Après Greuze arriva ma bonne amie, Madame de Bonneuil, aussi jolie que par le passé. Car la conservation de cette aimable femme tenait du prodige. Elle me dit que sa fille, Madame Regnault de Saint-Jean-d'Angély, donnait un bal le lendemain et qu'il fallait absolument que j'y vinsse. « Mais, lui dis-je, je n'ai point de robe parée. » Alors je lui montrai cette fameuse pièce de mousseline des Indes brodée qui avait fait tant de chemin avec moi, et qui, comme on sait, avait couru de si grands risques depuis que Madame du Barry me l'avait donnée. Madame de Bonneuil la trouva fort belle et l'envoya à Madame Germain, la célèbre couturière, qui me fit tout de suite une robe à la mode qu'elle m'apporta le soir même. J'allai donc au bal de Madame Regnault, et je trouvai là les plus belles femmes de l'époque, en tête desquelles il faut placer Madame Regnault elle-même, puis Madame Visconti, si remarquable par la beauté de sa taille et de son visage. Tandis que je me plaisais à fixer mes regards sur toutes ces charmantes personnes, une femme qui était assise devant moi se retourna. Elle était si admirable que je ne pus m'empêcher de dire « Ah, madame, comme vous êtes belle !» Cette femme était Madame Joubertot, alors sans fortune, et qui depuis a épousé Lucien Bonaparte. Je vis aussi à ce bal beaucoup de généraux français. On me montra Macdonald, Marmont et plusieurs autres. Enfin, c'était un monde tout nouveau pour moi. Peu de jours après mon arrivée, Madame Bonaparte vint me voir un matin. Elle me rappela les bals où nous nous étions trouvés ensemble avant la Révolution, ce que j'avais tout à fait oublié. Mais j'en fus d'autant plus sensible à son souvenir. Elle fut très aimable et m'invita à aller déjeuner chez le premier consul. Toutefois, comme je n'y mis pas un grand empressement, le jour de ce déjeuner ne fut jamais fixé. Je ne tardai pas à recevoir la visite de mon ami Robert, des Brongniart et celle de Ménageot, qui avait été directeur de Rome. Ce dernier me parla, la première fois qu'il vint me voir, de la révolte des jeunes gens qui lui avaient fait quitter Rome. Il me conta aussi qu'à son retour, il avait vu Bonaparte à Lodi après la grande victoire que venait d'y remporter ce général. Bonaparte, en lui montrant le champ de bataille, encore tout couvert de morts, lui dit avec un grand sang-froid « Ce serait un beau tableau à faire. » Ménageot avait été indigné de ce mot. « C'était, ajouta-t-il, un spectacle affreux, déchirant. » il y avait plusieurs chiens qui pleuraient auprès du cadavre de leur maître. Ces pauvres chiens me parurent bien plus humains que Bonaparte. J'étais bien vivement touchée de la joie que me témoignaient les amis et les connaissances qui, chaque jour, accouraient chez moi. À la vérité, le plaisir que j'éprouvais à les revoir tous était cruellement troublé par le chagrin d'apprendre beaucoup de morts que j'ignorais. Car il ne me venait pas une personne qui n'eût perdu ou sa mère ou son mari ou pour le moins quelques parents. Il me fallut subir une autre peine plus sensible que les autres. La bienséance m'obligeait à faire une visite à mon vilain beau-père. Il habitait à Neuilly une petite maison qui avait été achetée par mon père et où j'étais allée bien souvent dans ma première jeunesse. Tout dans ce lieu me rappela ma pauvre mère, le temps heureux que j'avais passé près d'elle. J'y retrouvai son panier à ouvrage, tel encore qu'elle l'avait laissé. Enfin, cette visite fut pour moi cruellement triste, d'autant plus que je n'étais déjà que trop disposée aux larmes. En allant à Neuilly, je venais pour la première fois de passer sur la place Louis XV, où je croyais voir encore le sang de tant de nobles victimes. Mon frère, qui était avec moi, se reprocha beaucoup de n'avoir pas fait prendre notre chemin, car ce que je souffris alors ne saurait se décrire. Même encore aujourd'hui, il m'est impossible de passer sur cette place sans me rappeler les horreurs dont elle a été le théâtre, et je ne puis me rendre maîtresse de mon imagination. On peut bien penser avec quel empressement je me rendis au musée du Louvre, qui possédait alors tant de chefs-d'œuvre. La première fois, j'y allais seule pour jouir de cette vue sans distraction. Je parcourus d'abord la galerie de tableaux, ensuite celle des statues. Et lorsqu'enfin, après être restée plusieurs heures sur mes jambes, je pense à retourner chez moi pour dîner, à 4h30, les gardiens, ignorant que je n'étais point sortie, avaient fermé toutes les portes. Je cours à droite, à gauche, je crie, il m'est impossible de me faire entendre et de me faire ouvrir. Je mourais de faim et de froid, car nous étions au mois de février. Je ne pouvais frapper aux fenêtres, elles étaient beaucoup trop élevées. Ainsi, je me trouvais en prison, au milieu de ces belles statues, que je n'étais plus du tout en disposition d'admirer. Elles me paraissaient des fantômes. Et à l'idée qu'il me faudrait passer la journée et la nuit avec elles, la frayeur et le désespoir s'emparaient de moi. Enfin, après avoir fait 1000 détours, j'aperçus une petite porte contre laquelle je frappai si fort que l'on vint m'ouvrir. Je sortis précipitamment, ravi de reprendre ma liberté et de pouvoir aller dîner, car j'avais grand besoin de manger. Peu de jours après mon arrivée, je reçus de la Comédie-Française la lettre suivante. « Madame, la Comédie-Française me fait l'honneur de me charger de vous adresser la copie d'un arrêté qu'elle vient de prendre pour établir votre nom sur la liste des entrées de son théâtre. Elle vous prie d'agréer cet hommage comme une marque de son admiration pour vos rares talents et de la haute estime que vous lui inspirez à tant de titres. J'ai l'honneur, etc. Maignan, secrétaire. » La Comédie-Française ne se borna pas à me donner cette marque flatteuse de son souvenir. Mollet et Fleury allèrent retrouver mon frère pour lui dire que les premiers acteurs désiraient venir jouer une comédie chez moi, et Vestris, le père, le prévint aussi que l'opéra danserait un ballet après la pièce. Tout cela, selon leur plan, devait avoir lieu dans ma galerie. Quoique sensible autant qu'on peut l'imaginer à ces témoignages de bienveillance pour moi, ne désirant pas être placé en évidence, je refusais des hommages si flatteurs. Toutefois, j'en ai conservé un souvenir d'autant plus reconnaissant qu'il semblait que Paris voulût me consoler, à mon retour, de tant d'odieuses calomnies qui avaient précédé mon départ. La première fois que j'allais au spectacle, l'aspect de la salle me parut extrêmement triste. Habitué, comme je l'étais, à voir autrefois en France et depuis dans l'étranger tout le monde poudré, ses têtes noires et ses hommes vêtus d'habits noirs formaient un sombre coup d'œil. On aurait cru que le public était rassemblé pour suivre un convoi. En général, l'aspect de Paris me paraissait moins gai. Les rues me semblaient si étroites que j'étais tenté de croire qu'on y avait bâti double rang de maisons. Cela tenait sans doute aux souvenirs récents des rues de Pétersbourg et de Berlin, qui sont pour la plupart extrêmement spacieuses. Mais ce qui me déplaisait bien davantage, c'était de voir encore écrit sur les murs « Liberté, fraternité ou la mort ». Ces mots, consacrés par la terreur, faisaient naître de bien tristes idées sur le passé et ne vous laissaient pas sans crainte sur l'avenir. On me mena voir une grande parade du premier consul sur la place du Louvre. J'étais placé à une fenêtre du musée et je me souviens que je ne voulais pas reconnaître pour Bonaparte le petit homme si mince qu'on me montrait. Le duc de Crillon, qui était à côté de moi, avait toute la peine du monde à me le persuader. Il m'arrivait ici, comme pour l'impératrice Catherine, de mettre peint en imagination cet homme si célèbre sous la figure d'un homme colossal. Peu de jours après mon arrivée, les frères de Bonaparte vinrent voir mes ouvrages. Ils furent très aimables pour moi et me dirent les choses les plus flatteuses. Lucien, surtout, regarda avec une attention toute particulière ma Sibylle, dont il fit mille éloges. Mes premières visites furent pour mes bonnes et anciennes amies, la marquise de Grolier et Madame de Verdun, que j'étais si heureuse de retrouver, pour la comtesse d'Andelot, très aimable femme, qui avait infiniment de grâce dans l'esprit. Je vis en même temps chez elle ses deux filles, Madame de Rosambeau. La comtesse de Rosambeau est morte peu de temps après la Restauration. Cette femme si parfaite sous tous les rapports est vivement regrettée de toute sa famille et de ceux qui ont eu le bonheur de la connaître. Et Madame d'Orglande, qui était digne de leur mère par leur esprit et par leur beauté. J'allais voir aussi la comtesse de Ségur. Je la trouvais seule et fort triste. Son mari n'avait pas encore de place et tous deux vivaient très gênés. Plus tard, à mon retour de Londres, lorsque Bonaparte fut empereur, il nomma le comte de Ségur maître des cérémonies. Le frère de celui-ci, le vicomte de Ségur, mettait alors assez plaisamment sur ses cartes « Ségur sans cérémonie », ce qui leur donna beaucoup d'aisance. Je me rappelle qu'à cette époque, ayant été la voir un soir vers les 8 heures et la trouvant toute seule, elle me dit « Vous ne croiriez pas que j'ai eu 20 personnes à dîner ? Ils sont tous partis après le café. » J'en fus en effet assez surprise, car avant la Révolution, la plupart des gens que l'on avait à dîner restaient avec vous jusqu'au soir, ce que je trouvais beaucoup plus sociable que la méthode actuelle. Dans le même temps, Madame de Ségur m'invita à une grande soirée de musique où elle avait rassemblé toutes les puissances du jour. J'eus lieu d'y remarquer une autre innovation qui ne me sembla pas plus heureuse. Je fus étonné, en entrant, de voir tous les hommes d'un côté et toutes les femmes de l'autre. On eût dit des ennemis en présence. Pas un homme ne venait de notre côté, à l'exception du maître de la maison, le comte de Ségur, que son ancienne coutume de galanterie engageait à venir adresser aux dames quelques mots flatteurs. On annonça Madame de Canisy, très belle femme, faite comme un modèle. Nous perdîmes alors notre unique chevalier. Le comte alla se prosterner devant cette beauté, à qui, dans ce moment, l'empereur rendait des soins et ne la quitta plus de la soirée. Je me trouvais assise à côté de Madame de Bassano, que l'on m'avait fort vantée et que je désirais voir. Elle parut faire beaucoup d'attention aux chiffres en diamants qui m'avaient été donnés par la reine de Naples lorsque j'avais pris congé de cette princesse, lequel était en effet très beau. Du reste, me considérant là sans doute comme une intruse, puisque je n'étais ni femme de ministre, ni de la cour, elle ne me dit pas une parole, ce qui ne m'empêcha point de la regarder souvent et de la trouver fort jolie. Le premier artiste auquel je fis visite fut M. Vien, qui avait été anciennement nommé premier peintre du roi et que Bonaparte venait de faire sénateur. Je fus infiniment flatté de l'aimable accueil qu'il voulut bien me faire et de l'extrême bonté qu'il me témoigna. Il avait alors 82 ans et pourtant il me montra 2 esquisses composées dans le genre des bacchanales antiques qu'il venait de peindre. Elles étaient charmantes. J'en fus surprise et charmée au point qu'il y a 35 ans que je les ai vues et que je me les rappelle parfaitement. On peut regarder M. Vien comme le chef d'une restauration de l'école française. C'est lui qui, le premier, rendit du style et de l'exactitude aux costumes grecs et romains. David et ses élèves, Gérard, Gros, Giraudet, sous ce rapport, sont certainement renommés avec raison. Mais il est juste de dire que M. Vien avait donné l'exemple de ce perfectionnement dans les sujets historiques. Après cette visite, j'allai chez M. Gérard, déjà si célèbre par ses tableaux de Bélisaire et de Psyché. J'avais le plus grand désir de connaître ce grand artiste que l'on disait se distinguer par son esprit autant que par son rare talent. Je le trouvais en tout digne de sa renommée et je l'ai toujours compté depuis au nombre des personnes dont j'aime à me rapprocher. Il venait alors de terminer le beau portrait de Madame Bonaparte étendu sur un canapé qui devait encore ajouter à sa réputation dans ce genre. Le portrait de Madame Bonaparte me donna le désir de voir aussi celui que Gérard avait fait de Madame Récamier. Alors j'allai chez cette belle personne, charmée d'une circonstance qui me procurait le plaisir de la voir et de faire connaissance avec elle. Très peu de jours après, elle m'invita à un grand bal où je me rendis avec la princesse Dolgorouki, que j'avais la joie de posséder à Paris. Ce bal était charmant, beaucoup de monde sans confusion, un grand nombre de jolies femmes, un fort bel hôtel, rien n'y manquait. Comme la paix d'Amiens venait de se faire, on retrouvait dans cette réunion je ne sais quel air de tenue et de magnificence que la jeune génération n'avait pu connaître jusqu'alors. C'était pour la première fois que les hommes et les femmes de 20 ans voyaient à Paris des livrées dans les antichambres, dans les salons des ambassadeurs, des étrangers de marque, richement vêtus, tous décorés d'or de brillant, et quoi qu'on puisse dire, ce luxe convient mieux pour un bal que les carmagnoles et les pantalons. Une femme rivalisait alors à Paris avec Madame Récamier sous le rapport de la beauté. C'était Madame Tallien. Robert, qui la connaissait beaucoup, me mena chez elle, et j'avoue que je cherchais vainement un défaut dans l'ensemble de cette charmante personne. Elle était à la fois belle et jolie, car la régularité de ses traits ne lui enlevait point ce qu'on appelle la physionomie. Son sourire, son regard, avaient quelque chose de ravissant, et sa taille, ses bras, ses épaules étaient admirables. Madame Tallien joignait à sa beauté un cœur excellent. On sait que dans la Révolution, une foule de victimes dévouées à la mort avaient dû leur salut à l'empire qu'elle exerçait sur Tallien. Les infortunés la nommaient alors Notre-Dame du Bon Secours. Elle me reçut avec une grâce parfaite. Plus tard, lorsqu'elle eut épousé le prince de Chimée, elle habitait au bout de la rue de Babylone un très bel hôtel où son mari et elle s'amusaient à jouer la comédie. Tous deux la jouaient fort bien. Elle m'invita à l'un de ses spectacles et vint plusieurs fois à mes soirées. Je ne tardai pas à former à Paris quelques nouvelles liaisons dont le temps m'a fait des amitiés. J'avais le bonheur d'être fort proche voisine de la marquise d'Opoul, que son caractère, sa bonté, son esprit me firent aimer promptement et qui est restée une de mes meilleures amies. Je fis aussi connaissance dans ce temps avec Madame de Beaune, qui venait d'épouser un officier russe, fils du célèbre général de ce nom. Elle était fort jeune alors et ne s'était pas encore distinguée dans les lettres comme elle l'a fait depuis quand elle eut perdu son mari et sa fortune. Mais alors, comme aujourd'hui, elle joignait à son esprit et à ses talents cette modestie si vraie, si réelle, et surtout cette bonté d'âme qui me la font chérir. J'eus même le bonheur à cette époque de connaître Ducis, dont le beau caractère égalait le rare talent. Le naturel, l'extrême simplicité de toutes ses manières contrastait si bien avec la brillante imagination dont le ciel l'avait doué, que je n'ai jamais vu d'homme plus attachant que cet excellent Ducis. Ses amis n'avaient d'autre regret que celui de ne pouvoir le fixer à Paris. Mais il n'aimait point la ville, et pour que tout fût semblable dans sa façon d'être, il fallait des bergers, des prairies, à l'odeur d'Édipe et d'Othello. La vie solitaire qu'il se plaisait à mener fut pour moi la cause d'une surprise, ou plutôt d'une peur que je n'ai jamais oubliée. À mon retour de Londres, j'allai le voir à Versailles, où j'avais appris qu'il s'était retiré. C'était le soir. Arrivé à sa porte, je frappe et Madame Peyre, la veuve de l'architecte, que je croyais morte depuis longtemps, vient m'ouvrir tenant une chandelle à la main. Je fis un cri d'effroi. Je la regardai d'un air effaré, sans pouvoir reprendre mes esprits, tandis qu'elle me racontait comment, depuis peu, elle avait épousé Ducis. Je finis pourtant par comprendre et par me rassurer. Elle me conduisit près de son mari, que je trouvais seul dans une petite chambre, au dernier étage de sa maison, entourée de livres et de manuscrits. Rien de cette habitation ne me parut ni bien champêtre, ni bien agréable. mais l'imagination de Ducise faisait de ce grenier, qu'il appelait son belvédère, un lieu de délices. Je retrouvais avec plaisir Madame Campan. Elle jouait alors un assez grand rôle dans la famille qui devait bientôt devenir famille régnante. Elle m'invita à dîner un jour à Saint-Germain, où elle avait établi son pensionnat. Je me trouvais à table avec Madame Murat, sœur de Napoléon. Mais nous étions placés de manière que je ne pus voir que son profil, attendu qu'elle ne tourna pas la tête de mon côté. Je jugeai pourtant sur ce seul aperçu qu'elle était jolie. Le soir, les jeunes pensionnaires nous donnèrent une représentation d'Esther, où Mademoiselle Auguet, qui épousa depuis le maréchal Ney, joua fort bien le premier rôle. Bonaparte assistait à ce spectacle. Il était assis sur la première banquette. Je me mis sur la seconde, dans un coin, mais à très peu de distance de lui, afin de pouvoir l'examiner à mon aise. Quoique je fusse placé dans l'obscurité, Madame Campan vint me dire dans l'entracte qu'il m'avait deviné. J'avais remarqué avec plaisir, dans la chambre de Madame Campan, un buste de Marie-Antoinette. Je lui savais gré de ce souvenir, et elle me dit que Bonaparte l'approuvait, ce que je trouvais bien de la part de celui-ci. Il est vrai de dire qu'à cette époque, il semblait ne devoir rien redouter ni du passé ni de l'avenir. Ses victoires excitaient l'enthousiasme des Français et même celui des étrangers. Il avait surtout beaucoup d'admirateurs parmi les Anglais, et je me souviens qu'un jour que j'allais dîner chez la duchesse de Gordon, elle me montra le portrait de Bonaparte en me disant « Voilà mon zéro !» Comme elle parlait fort mal le français, je compris ce qu'elle voulait dire et nous rîmes beaucoup toutes deux quand je lui expliquai ce que c'était qu'un zéro. Le grand nombre d'étrangers de ma connaissance qui se trouvaient alors à Paris et le désir de me distraire d'une mélancolie que je ne pouvais parvenir à vaincre m'engagèrent à donner des soirées. La princesse Dolgorouki désirait vivement connaître l'abbé de Lille que j'invitais à venir souper chez moi avec beaucoup d'autres personnes qui étaient dignes de l'entendre. Quoique ce charmant poète fût devenu aveugle, il n'en avait pas moins conservé l'aimable gaieté de son caractère. Il nous récita ses beaux vers dont nous fûmes tous enchantés. Après ce souper, j'en donnai plusieurs autres. Je réunis à l'un d'eux tous les principaux artistes de cette époque et nous soupâmes gaiement, comme avant la Révolution. Au dessert, chacun fut contraint de chanter une chanson. Gérard choisit l'air de Malbrou. Mais, à vrai dire, son chant n'était point aussi parfait que sa peinture, car il avait la voix fausse, et nous en rîmes beaucoup. Une autre fois, j'arrangeai un souper où se trouvaient tous les grands personnages de ce temps, et les ambassadeurs, au nombre desquels était M. de Metternich. Puis je donnai un bal où dansèrent Mme Hamelin, M. de Trénise et plusieurs autres danseurs renommés, car alors la mode était venue de danser dans la société aussi bien que l'on danse à l'opéra. Mme Hamelin était regardée comme la meilleure danseuse des salons de Paris. Il est certain qu'elle avait une grâce et une légèreté admirables. Je me rappelle qu'à ce bal, Madame Dimidoff dansa ce qu'on appelait la valse russe d'une manière si ravissante que l'on montait sur les banquettes pour la voir. Comme j'avais dans la maison de la rue du Groschenet une fort belle galerie, j'imaginais de faire dresser un théâtre pour qu'on y jouât la comédie. Tout ce qu'il y avait alors de personnes marquantes était du nombre des spectateurs. Le spectacle se composait d'une comédie de mon frère, intitulée « L'entrevue », et deux Crispin, rival de son maître. Mon frère, ma belle-sœur, M. de Rivière et Mme de Beau, qui fut charmante dans la soubrette, jouèrent la première pièce. Crispin, rival de son maître, quoiqu'il nous manquât le comte de Langeron, si plaisant dans la branche, fit le plus grand plaisir, au point que Molé, Fleury et Mlle Contat, qui étaient présents, furent tout à fait surpris de la manière dont on joua les deux pièces. Je m'empressai par ces réunions de rendre aux Russes et aux Allemands qui se trouvaient à Paris quelques-uns des plaisirs qu'ils m'avaient procurés dans leur pays. Avec tant de grâces et de bienveillance, je passai ma vie avec eux. Je voyais surtout, presque tous les jours, la princesse Dolgorouki qui avait été si parfaite pour moi à Pétersbourg. Le séjour de Paris lui plaisait assez et elle était parvenue promptement à se former une société des plus aimables gens de nos salons. Ceci me rappelle que je retrouvai chez elle un soir le vicomte de Ségur que j'avais beaucoup vu avant la Révolution. Il était alors jeune, élégant, faisant mille conquêtes par le charme de sa physionomie. Je le revoyais chez la princesse, la figure éteinte, ridée, coiffée d'une perruque à boucles, symétrique de chaque côté, qui laissait le front sans cheveux. 12 années de plus et cette perruque le vieillissait tellement que je ne le reconnus qu'à sa voix. « Hélas, me dis-je tout bas, ce que c'est que de nous !» La princesse Dolgorouki vint me voir le jour qu'elle avait été présentée à Bonaparte. Je lui demandai comment elle avait trouvé la cour du premier consul. « Ce n'est point une cour, me répondit-elle, mais une puissance. » La chose, en effet, dut lui paraître ainsi, étant accoutumée à la cour de Pétersbourg, qui est si nombreuse et si brillante, tandis qu'elle trouva aux Tuileries fort peu de femmes, mais un nombre prodigieux de militaires de tous grades. Au milieu des distractions que m'offrait le séjour de Paris, je n'en étais pas moins poursuivi par une foule d'idées noires qui venaient m'accabler même au sein des plaisirs. Je finis par éprouver un besoin ardent de vivre seul, en sorte que j'allais m'établir à Meudon, dans un endroit qu'on appelait la Capucinière et qui avait été habité par des religieux. La petite maison que je louais, bâtie pour servir de retraite à l'un des supérieurs, avait tout à fait l'air d'une thébaïde. Elle était placée au milieu des bois, et son aspect, agreste et solitaire, aurait pu me faire croire que j'étais à 1000 lieues de Paris. Cela me convenait à merveille, car ma mélancolie était si grande que je ne pouvais voir personne. Lorsque j'entendais une voiture, je m'enfuyais dans les bois de Meudon. La première visite que je reçus là, ce fut celle de la duchesse de Fleury et de mesdames de Bellegarde qui habitaient ensemble une maison dans les environs. Elles m'invitèrent à venir les voir et toutes trois étaient si aimables que ce voisinage me charma au point de me réconcilier avec l'humanité et de dissiper ma mélancolie. Toutefois, lorsque l'automne vint, je retournai à Paris où je retrouvai toutes mes idées tristes. Pour mettre fin à un état d'esprit aussi pénible, je me décidai à faire un voyage. Plusieurs fois pendant que j'étais à Rome, on avait mis dans les journaux que j'étais à Londres pour faire croire que j'avais suivi M. de Calonne. Mais le fait est que je n'avais jamais vu cette ville et je résolus de m'y rendre.